Saint Pierre, chapitre 3, c'est tout à la fin de la Bible. Verset 13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Et de aucune crainte, ne me soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et ayant une bonne conscience, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qu'autrefois avait été incrédule lors de la patience de Dieu, se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. C'est un peu difficile, on va essayer d'être clair, mais bon. La souffrance. Vous aimez souffrir ? Qui aime souffrir ? Non ? Qui aime manger ? On préfère, hein ? Ouais. On se souvient du contexte de ce passage, la persécution contre les chrétiens et... Pierre doit exhorter tous ces chrétiens qui souffrent et qui souffraient terriblement cette persécution. Et on a déjà vu qu'ils étaient appelés à avoir un témoignage correct, une bonne conduite, malgré la souffrance, malgré les ennemis qui étaient là autour d'eux. Et il faut vivre parfois ainsi. Et vivre sa foi, c'est aussi accepter parfois de souffrir. Je pense que vous avez tous à un moment été un peu raillés parce que vous êtes appelés chrétiens, ou parce que vous avez parlé de votre foi et les gens rigolent un peu ou se moquent de vous. Et il y a une petite souffrance là déjà, hein, on n'aime pas être moqué. Mais des fois ça peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à la mort, hélas. Mais dans cette souffrance, Dieu nous montre au travers de ce texte que malgré tout, il peut y avoir des récompenses derrière cette souffrance. Et c'est ce que je veux voir un peu ce matin. Parfois on va souffrir, mais on peut se focaliser sur autre chose que sur la souffrance. Avoir trois choses ce matin, hein, c'est marqué là. Souffrir pour la justice rend heureux. Deuxième chose qu'on va voir, que nous devons souffrir comme Jésus a souffert. Lui aussi a souffert pour nous et pour moi. Une troisième chose, que la patience dans la souffrance trouve aussi sa récompense, curieusement. Donc souffrir pour la justice, en fait, rend heureux. Alors dit comme ça, même quand on est dans la justice et qu'on souffre, on n'est pas forcément heureux. Et pourtant, la Bible dit que si. Être heureux dans la souffrance, d'abord, dépend de qui nous craignons. Ça, c'est important. Est-ce que j'ai la crainte des persécuteurs, de ceux qui me font du mal ? Si je crains eux, ça va produire quelque chose en moi. C'est croire alors que l'homme est tout puissant, que ce persécuteur, celui qui me fait mal, peut absolument tout faire. Mais nous, on sait que c'est Dieu qui est souverain, qui est même souverain sur les persécuteurs, sur les méchants, sur tous ces gens qui nous font du mal parfois. Et c'est là où je dois définir qui je crains réellement. Est-ce que je crains le persécuteur ou est-ce que je crains Dieu ? Et ça a un impact dans ma façon d'aborder la souffrance. Si j'ai peur de mes persécuteurs et que je ne crains pas Dieu ou je ne compte pas sur lui, forcément, la panique va m'envahir et je vais souffrir davantage. Mais Pierre dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Le mot « sanctifier », c'est séparer le profane des choses saintes. Quand je suis né de nouveau, j'ai été séparé du monde pour faire partie aujourd'hui du peuple de Dieu. Et... c'est en même temps, si je sanctifie mon cœur, comme il est demandé, quelque part je suis en train d'honorer aussi Dieu. Et quand j'honore Dieu, je le crains, je le respecte derrière. Dans Ésaïe 8, 12 à 13, il est dit « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » Il y a un lien là entre la sanctification et la crainte que l'on doit à Dieu. Ésaïe dit, arrêtez de craindre l'homme, il fait des choses, c'est vrai, il peut nous faire mal, mais celui qu'il faut vraiment craindre, c'est Dieu. Parce que lui, il est plus grand, il est plus fort, il est souverain, et il peut absolument tout. Et dans ces moments d'épreuve, ou peut-être de souffrance, il y aura un choix à faire à un moment. se dire qui est-ce que je crains vraiment. Et quand on voit l'exemple des apôtres, des disciples et tout ça, eux, au départ, avant que le Saint-Esprit n'arrive, la Pentecôte, ils craignaient l'homme. Parce que le jour où Jésus s'est fait arrêter, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein, Pierre qui disait « Moi, j'irai mourir avec toi. » Ben Pierre, taïo, taïo, il a renié, les hommes sont tous partis. Voilà, ça c'est l'homme sans le Saint-Esprit. Hein. Et parce que là, ils ont fixé les persécuteurs. Ils n'ont pas craint Dieu à ce moment-là. Mais Dieu a donné ensuite le Saint-Esprit à la Pentecôte, ce qui nous aide aujourd'hui aussi à pouvoir agir de meilleure façon. Et finalement, tous ces apôtres, tous ces disciples, ont accepté même de mourir pour la plupart pour le Seigneur. Parce que là, ils ne regardaient plus à l'homme, mais ils regardaient à Dieu, tout simplement. Le chrétien, selon ce texte, est appelé à défendre sa foi. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà demandé, mais pourquoi tu es chrétien ? Moi, je suis musulman, ou je suis juif, ou je suis protestant, ou catholique, ou je ne sais pas quoi. Il faut apprendre à défendre sa foi. Se défendre, c'est un terme juridique, en fait, dans le grec, c'est faire une espèce de plaidoyer ou un argument raisonné. Quand on essaie de témoigner, alors on apprend, ça met du temps, mais on ne va pas balancer les choses n'importe comment. On a envie d'argumenter et de pouvoir convaincre l'autre avec des arguments bibliques. Moi, j'aime bien évangéliser en ouvrant la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui convainc, ce n'est pas mes arguments à moi. Si vous arrivez à faire lire la Bible à quelqu'un, quand vous témoignez, c'est formidable. Si vous arrivez à lui faire lire toute la Bible, c'est encore mieux, mais ça va demander du temps. Mais on est appelé à se défendre, à répondre d'une façon argumentée à notre foi. C'est être en fait des apologètes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le terme. C'est venu en fait au début de l'Église primitive. Les rois, les empereurs demandaient raison de la foi des chrétiens, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Donc il y a des hommes, des apologètes, qui ont commencé à écrire à l'empereur, etc., pour défendre leur foi. Mais là, ils le faisaient de façon argumentée pour que cela puisse être compris en fait par ces personnes-là. Alors on n'est pas des grands apologètes en tant que chrétiens, mais on connaît quand même la base biblique, au moins il faudrait la connaître, savoir où se trouve Jean 3,16. Normalement on devrait, puisque je viens de donner la référence. Mais avoir quelques versets comme ça, clés, qu'on puisse donner à des gens et qu'ils puissent les méditer, les ruminer, et peut-être même se convertir derrière. Mais il faut aussi se défendre parce qu'il y a des calomniateurs, comme on l'a vu dans le texte, et certainement qu'on embêtait les chrétiens en leur demandant tout simplement raison de leur foi ou de leur espérance. C'est bien quand quelqu'un vient vous demander pourquoi vous êtes comme vous êtes. Moi, je suis toujours malheureux quand il y a l'épreuve et tout ça. Et quand toi, tu es dans l'épreuve, tu es un peu triste, mais en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui t'aide à être soutenu dans la difficulté. Et j'espère, moi, j'aimerais tellement qu'il y ait des gens qui me demandent raison de ma foi. Si vous pouvez venir tous les jours, moi, je suis prêt à répondre à cela. Comment se défendre? Et c'est là où peut-être on fait mal. Le texte nous dit « avec douceur ». Des fois, quand on se moque de nous, on demande raison de notre foi, c'est souvent sur un ton de moquerie. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Taper sur la tête de l'autre et lui dire « arrête maintenant de te moquer de moi ». Ou alors, on peut peut-être même être énervé, parce que l'autre ne croit pas en ce qu'on dit. Ça peut être autant dehors, dans la rue, mais peut-être des fois dans un couple où l'un n'est pas converti et l'autre converti. Mais là, on doit défendre notre foi avec douceur. Le mot, c'est une douceur de disposition, une gentillesse de l'esprit. On ne va pas attaquer l'autre. Souvenez-vous qu'avant qu'on soit converti, on était comme cette personne, on ne comprenait rien. On oublie souvent ça. Il dit donc avec douceur, mais aussi avec respect. Phobos, phobie, avec crainte. Crainte et respect pour cette personne, sans prétention non plus, en disant « moi, je suis sauvé, toi, tu n'es rien ». Non, crainte et respect de cette personne. En fait, comme Jésus-Christ a témoigné, chaque fois qu'on l'attaquait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il répondait doucement, sagement, mais jamais il s'est emporté, jamais il a crié. Il était toujours plein d'amour et calme. Et croyez-moi que quand vous êtes sur une croix à clouer, à mon avis, vous n'êtes pas tellement calme et tranquille. Et pourtant, le Seigneur a toujours répondu de sa foi de cette manière-là. C'est un exemple pour nous. Se défendre en gardant une bonne conscience aussi. Et c'est ça qu'il met l'accent un peu sur ce texte. La calomnie, je pense, ou quand on me fait du mal, au fond du cœur, si je pouvais me venger. Là, ils m'ont fait vraiment du tort. Et dans le cœur même du chrétien, il y a des choses qui montent bien souvent. Et finalement, ça nous tend vers le péché. Et c'est naturellement, mais c'est un peu légitime. On est des êtres humains. Mais lui dit garder une bonne conscience, c'est-à-dire justement quand on vous calomnie, au lieu d'être enclin au péché et de se laisser aller à la vengeance ou je ne sais pas quoi, eh bien là, la conscience va être souillée par le péché. Alors que lui dit, gardez une bonne conscience, ça veut dire ne péchez pas, même si on vous agresse, même si on vous embête pour votre foi, gardez une bonne conscience. Pourquoi ? Parce que quand ma conscience va bien, je vais bien. Et quand je vais bien, je suis heureux, même si on me persécute. Par contre, si on me persécute et qu'en même temps je commence à avoir des désirs de vengeance ou je vais me venger, je rajoute souffrance à souffrance, tout simplement. Et c'est bien dommage à ce moment-là. Et puis surtout, quand je suis juste devant les calomniateurs ou ceux qui me font du mal, eux sont dans la confusion. Ils doivent être dans la confusion de voir Jésus ne jamais crier, ne jamais rien dire, alors qu'ils étaient en train d'être injustes avec lui. Enfin, en tout cas, certains d'autres n'ont rien compris, ils sont complètement fous, mais il y en a qui ont certainement dû être dans la confusion. Je me souviens de le centenier qui était à la croix, et cet homme ne comprenait rien de ce qui se passait là. Donc une bonne conscience, et savoir souffrir en faisant le bien plutôt que le mal. L'homme sait souffrir parce qu'il fait le mal, ça c'est naturel chez nous. Mais souffrir en faisant le bien, ça c'est déjà moins naturel. Et le problème c'est que si je fais souffrir, ou si je souffre en faisant le mal, quelque part j'attriste Dieu parce que je dis, je vais me débrouiller sans toi. Puisque c'est moi qui vais agir, si je commence à faire le mal, c'est moi qui agis, et je ne laisse pas Dieu me défendre tout simplement. Finalement, j'attriste aussi Dieu dans ce cas-là. Mais si je souffre en faisant le bien, en restant juste, en restant droit, alors là, je réjouis le cœur de Dieu, parce que c'est ce qu'il me demande, et parce qu'en fait, j'imite tout simplement son Fils. Mais en faisant le bien, je me fais encore du bien, à moi, puisque j'ai une bonne conscience, et j'ai aucun péché à demander pardon à ce moment-là. Et finalement, dans la souffrance, et quand on m'embête, il faut que je fasse les choses bien, justement. Et quand je vais les faire bien et justement, ça va peut-être provoquer quelque chose en face de moi, peut-être pire ou mieux, on ne sait jamais, mais en même temps, je me préserve moi. Parce que c'est tellement important de se préserver aussi, et surtout dans ces situations difficiles. Ajouter souffrance à souffrance, c'est bien dommage, alors qu'on peut avoir l'aide de Dieu à ce moment-là. Ça ne sera pas forcément immédiat, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas nous mettre à mort, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été mis à mort, mais il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, certainement qu'on ne peut pas connaître nous, parce qu'on n'a pas encore été face à cela, mais vaut mieux partir avec la paix qu'avec la haine dans le cœur pour ses ennemis. On est bien d'accord. Donc si le chrétien doit souffrir dans sa vie, n'ajoutons pas une mauvaise conscience, et c'est ce que dit Pierre à tous ces chrétiens, oui, je sais que vous souffrez, mais gardez vos consciences bien pures, parce que ça vaut mieux, largement mieux. Et puis, il argumente une deuxième chose, c'est souffrir pour imiter Christ. Eh oui, on n'est pas plus que le maître, à ce qui paraît. Et donc, on est aussi peut-être appelé à souffrir pour Jésus-Christ. Et il énumère un peu les caractéristiques de la souffrance de Jésus-Christ. Il a souffert une fois pour nos péchés. Une seule fois. Il est allé à la croix, on l'a dit tout à l'heure, et il est mort pour nos péchés. Et ce sacrifice était parfaitement efficace. Il est mort une fois. À l'époque, on faisait des sacrifices, on renouvelait les sacrifices d'animaux, mais ça couvrait simplement le péché. Jésus est mort une seule fois, et ça effaçait, purifiait le péché pour toujours. En tout cas, si on demande pardon, évidemment. Et donc, cette œuvre de rédemption est achevée une fois pour toutes, et le pécheur peut profiter de l'expiation qui a été faite sur la croix. Jésus le juste, par excellence, a pris ma place. Et ça, il faut s'en souvenir, c'est moi qui devais être sur cette croix. C'est moi qui devais mourir à cause de mon péché. Et lui qui était juste n'avait rien à faire sur cette croix. Il n'avait jamais péché, tant qu'il ne méritait pas la mort. Et pourtant, il a accepté de prendre ma place, lui qui était juste, pour des injustes. Il a accepté de souffrir l'injustice. Si lui l'a accepté, ça devient un exemple pour moi. Parce que souvent, on ne veut pas accepter l'injustice, mais Jésus l'a accepté. Il me demande de l'imiter aussi. Et n'importe quelle injustice, hélas. Il est un exemple pour moi. Lui, jusqu'au bout, il a défendu la vérité de Dieu. Rien n'a pu l'ébranler. Et devant les hommes pécheurs, devant tous ceux qui l'ont fait du tort et du mal, il a gardé le chemin. Il était droit. Il est resté juste jusqu'à la fin. Et c'est un exemple pour nous, même si on est persécuté. Est-ce qu'on va rester juste ou pas jusqu'à la fin? On devrait, normalement. Et Dieu nous donnera aussi l'aide, je pense, nécessaire à ce moment-là. Jésus est mort pour nous réconcilier, on l'a dit tout à l'heure, il a souffert dans un but. C'est important, il a souffert, Des fois, on croit que souffrir, ça sert qu'à souffrir, mais il y a un but aussi, des fois. On va voir les récompenses tout à l'heure, mais Jésus a souffert avec un objectif, c'était de nous réconcilier avec Dieu. Vous imaginez si devant la croix, il a dit « Oh, ben, j'ai pas envie de souffrir aujourd'hui. » Et il serait rentré tranquillement chez lui. Je ne sais pas s'il aurait pu le faire, mais bon. Et bien, parce qu'il n'aurait pas voulu souffrir, ben, finalement, l'objectif n'aurait pas été atteint. Et derrière, ben, on ne pourrait pas être sauvé. C'est pareil pour nous. Et il a dit, c'est pour amener en fait les gens à connaître Dieu. Hein. Le mot, c'est ouvrir une voie d'accès pour quelqu'un, pour le réconcilier justement. Et dans un sens judiciaire, le mot veut dire convoquer quelqu'un, l'appeler. C'est ça, on l'utilisait pour les procès ou pour les châtiments. Hein. Mais Dieu nous a convoqués, on pourrait dire, pour être réconciliés à un moment avec lui. Mais il a d'abord fallu qu'il souffre pour que cela devienne possible. Et Jésus est aussi ressuscité. Hein. Et là, un texte un peu difficile, il dit « Il est mort dans la chair et vivifié quant à l'esprit. » Il y a plusieurs versions, là je vais lire plusieurs traductions, hein, c'est le verset 8. Alors où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Par exemple, Darby, moi j'aime beaucoup cette traduction, dit « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'esprit. » Une autre traduction, hein, en français courant, tiens. « En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. » Et là, en fait, on se bat sur deux possibilités, cette histoire d'esprit. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de voir cela. L'expression qu'il y a dans ce verset « quant à l'esprit ». Alors, il y a deux possibilités. Soit l'esprit dont on parle là, c'est le Saint-Esprit, qui est l'agent de la résurrection de Jésus-Christ, et donc la troisième personne du Saint-Esprit. Soit ça pourrait être simplement que Pierre est en train de faire un contraste entre le corps ou l'esprit humain et le corps humain. Et les deux sont possibles. Mais j'ai une préférence pour la deuxième possibilité. Pourquoi ? Pierre serait plutôt en train de dire qu'il y avait un moment où Jésus avait un corps, on va dire, et puis comme nous, il y a un esprit, et que cet esprit, on a lu tout à l'heure, va aller prêcher aux morts. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Hein. J'ai dit, c'est pas simple comme passage. Alors, moi, je pense plutôt à l'esprit humain. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, il va prêcher dans lequel il va prêcher, dans l'esprit dans lequel il va prêcher. Hein. C'est pas avec qui. Donc, c'est plutôt avec quelque chose qui lui appartient à lui. Hein. C'est dans cet esprit qu'il allait prêcher comme un esprit humain de Christ. C'est un peu dire qu'au moment où nous allons mourir, notre esprit s'en va et va rejoindre le séjour des morts, hein, ou le paradis. En 1 Pierre 4, 6 aussi, hein, il fait le même contraste entre l'esprit et la chair, hein, je lis le verset. « Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, là on parle du corps, ils vivent selon Dieu par l'esprit. » Et donc il fait un contraste entre les deux. Vous arrivez à me suivre là ? C'est un peu de théologie là, hein, je suis désolé, mais c'est juste pour être clair. Quelqu'un écrit « Son esprit, dépouillé de son corps charnel par la mort, a reçu un nouvel organe, un corps spirituel, et ça serait avec cela qu'il serait allé prêcher dans le séjour des morts. » C'est donc en ayant quitté son corps avec son esprit humain, quand Jésus est mort sur la croix, son esprit l'a quitté, hein, il le dit « Je te remets mon esprit entre tes mains, et cet esprit sera allé prêcher dans le séjour des morts. » On va revenir sur cela tout à l'heure, hein, juste pour clarifier les choses. Donc Christ a prêché aux esprits en prison. J'imagine que vous avez déjà lu ce passage en disant « Qu'est-ce qu'il raconte là ?» Il y a deux, trois passages dans Pierre qui sont un peu difficiles. Alors voilà deux interprétations et on va avoir d'autres après. Par exemple, Luther disait « Il pensait que la prédication de Christ dont il est question ici eut lieu par les apôtres sur la terre aux hommes considérés comme étant dans une prison, c'est-à-dire dans les liens de la chair et du péché, qu'elle consista, selon les paroles d'Ésaïe, à annoncer aux captifs la liberté, aux prisonniers, l'ouverture de leur prison. » Ça, c'est Luther, hein, à la réforme. Calvin, l'autre, prend le mot que nous rendons par prison dans le sens qu'il peut avoir aussi de lieu où l'on veille, ou d'action de veiller. L'apôtre voudrait dire simplement que les âmes des saints de l'ancienne alliance étaient dans l'attente du salut promis, et que Christ alla, après sa mort, en esprit, leur annoncer l'achèvement de son œuvre rédemptrice. Le problème avec ces deux interprétations, c'est que ça n'explique pas le temps de Noé. Parce que si vous avez bien lu, hein, c'est quelque chose qui se passe au temps de Noé. Alors je vais expliquer, j'ai d'autres interprétations, on va essayer de trouver la bonne. Hein. Certains pensent que Christ aurait prêché en enfer. Vous savez, dans le séjour des morts, à ce moment-là, il y avait le paradis ou le sein d'Abraham, comme disait, et puis le séjour des morts, la partie pour ceux qui sont perdus. On a étudié ça le mardi soir. Si vous voulez, venez me voir tout à l'heure, hein, pour aller plus en profondeur. Et donc certains pensent qu'il serait descendu en enfer pour annoncer sa victoire aux morts, ou donner peut-être la possibilité à quelqu'un d'être sauvé. Mais là, la Bible répond par elle-même. Dans Acte 2, 27, d'abord, il est dit que Jésus ne peut pas voir la corruption. Jésus ne peut pas entrer dans l'enfer. C'est impossible pour lui. D'accord ? Donc il n'est pas allé dans l'enfer. Et surtout, dans Hébreux 9, 27, il est dit qu'une fois qu'on est mort, le choix fait du vivant va être décidé dans l'éternité. Une fois que je meurs en n'étant pas sauvé, je ne peux plus jamais être sauvé dans la mort. C'est impossible. C'est pour ça que c'est tellement important de faire le choix du vivant. Donc cette théorie ne tient pas, Jésus ne peut pas non seulement descendre dans l'enfer, mais en même temps il ne va pas annoncer la possibilité d'un salut ou d'une deuxième possibilité de salut. Il n'y a qu'un seul salut, c'est du vivant. Notre interprétation dirait que Christ aurait prêché sa victoire aux anges déchus. Hein, parce que dans 2 Pierre, il est où mon verset? Je ne l'ai plus, je me l'ai effacé. Ah non, voilà. Dans 2 Pierre 2, 4, il est dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes... » Alors pour ceux qui avaient étudié avec nous l'eschatologie personnelle, les abîmes, c'est le Tartaros, je ne sais pas si vous vous souvenez, la partie où il semblerait qu'il y ait des démons qui soient enchaînés, qui seront libérés dans l'Apocalypse. Hein. Et donc, s'ils ont été précipités dans les abîmes de ténèbres, et leur réserve pour le jugement... n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes dont mauvais, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Et certains penseraient que Christ aurait prêché sa victoire à ces anges qui sont pour ces anges perdus, hein, ces démons, et il aurait annoncé sa victoire à ces démons qui sont emprisonnés. Mais quand on lit le texte, on parle plutôt à des êtres humains et on ne parle pas d'anges à ce moment-là. Voilà l'interprétation que beaucoup ont avec moi, et je suis assez d'accord. En fait, il faudrait plutôt penser que Noé, à son époque, hein, il faut repartir, a prêché par l'esprit de Christ et il a proclamé le jugement qui va avoir lieu à ce moment-là, le déluge hein, qui va avoir lieu. En fait, ces esprits en prison sont les incrédules du temps de Noé. Vous replacez un peu au temps de Noé. Dieu a dit à Noé qu'il va envoyer un déluge. Noé a annoncé ça à ces gens qui sont restés incrédules. Et par l'esprit de Christ, il annonçait justement ce jugement-là. À tous ces esprits. Évidemment, ils n'ont pas écouté. Et ils attendaient tout simplement leur jugement. Donc Jésus, au travers de Noé, aurait simplement annoncé ce jugement-là. Et quand on regarde un peu, en fait, à l'époque, le message de Noé n'a pas du tout été accepté, hein, comme aujourd'hui, finalement. Et finalement, ils sont tous morts, ça c'est triste pour eux, mais aujourd'hui, Jésus a déjà souffert le rejet de son message à ce moment-là, au travers de Noé, comme il aujourd'hui le souffre à notre époque, où les hommes incrédules refusent absolument ce message de salut. C'est quand même dommage qu'à l'époque du déluge, ils sont avertis, parce que Dieu ne prévient toujours avant de juger, mais ils ont dû quand même se dire, mince, on a loupé le coche. Hein. Et certainement que tous les jours, tous ces gens qui partent, qui meurent, ben c'est exactement la même chose. Ah, on m'avait parlé de Jésus, mais j'ai oublié, et c'est trop tard. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur réellement, en passant par une vraie repentance et en acceptant qu'il est mort pour vous, ben c'est l'occasion d'y réfléchir. Parce que quand on loupe le coche, c'est trop tard. C'est terrible quand on y pense. Donc j'espère que j'étais pas trop compliqué là. Venez me voir après si ce n'était pas assez clair. Hein. Mais voilà, il y a plusieurs interprétations, mais nous pensons, nous en tout cas, que c'est par l'Esprit de Christ que Noé a tout simplement annoncé à ses incrédules le jugement qui devait arriver. Donc Christ a accepté de souffrir pour des pécheurs injustes. Nous-mêmes, aujourd'hui, on veut tout simplement l'imiter et accepter parfois de souffrir pour des gens qui sont injustes. Et il nous donnera la force, évidemment, et le courage d'accepter cette injustice dans notre vie. Et une troisième chose qu'on voit, c'est la patience dans la souffrance trouve sa récompense. Alors, vous allez dire, mais quand je souffre, quelle récompense je peux trouver dans la souffrance hein ? C'est pas maso, quand même. Il y a des choses à trouver. Et là, il fait un rapprochement avec Noé, toujours. Hein. Il dit « La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Parce que Dieu a averti avant le jugement. Hein, et il a prévenu ses hommes que un cataclysme allait arriver sur la terre. Noé était un prédicateur de la justice. Hein, il dit ça dans 2 Pierre 2, 5. Et cette patience a duré 100 ans. Hein, on pense que Noé a mis environ 100 ans pour construire l'arche, puisque en Genèse 5, 32, il avait 500 ans au départ, et en Genèse 7, 6, il avait 600 ans juste au moment où le déluge va commencer. Donc pendant 100 ans, il a annoncé que le déluge arrivait. Dieu est patient, non? Il est très patient. C'est un peu comme nous, pendant 100 ans, il attend qu'on accepte qu'on se convertisse, si on arrive à vivre jusqu'à 100 ans. Hein, mais bon, il est très patient, notre Dieu. Heureusement, d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait s'il n'était pas patient. Mais il ne faut pas non plus jouer avec sa patience, parce que sa patience a une limite. Et là, évidemment, ces gens qui ont joué un peu avec la patience de Dieu, ben, le déluge est arrivé, le jugement est arrivé. Hein, Dieu ne rigole pas. Il prévient, il est plein d'amour pour prévenir, mais il reste juste, et le jugement aura bien lieu. Et on entend souvent dire par certains que parce que Dieu nous aimera tous, personne ne sera perdu et tout le monde sera sauvé au bout. Mon œil, Dieu est juste et il démonte plus d'une fois. Et cette justice va être effective et quand il jugera, les gens vont mourir et vont être éloignés de lui. Et donc pendant 100 ans, Noé va annoncer justement ce jugement, annoncer la parole de Dieu. Et là aussi, on s'est moqué de lui. Il a dû souffrir, à mon avis, beaucoup. Hein, on a dû l'embêter pas mal pendant 100 ans. Vous imaginez, 100 ans à annoncer ça. Et pendant 100 ans, on se fout de vous. Tous les jours, on se moque de vous. Vous êtes prêts hein? Vous acceptez la mission? Eh oui, mais pourtant, hein, il l'a accepté. Heureusement qu'il l'a accepté. On va voir pourquoi. Et ces incrédules, hein, comme dit Matthieu 24, 38, hein, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. En fait, ils ne croyaient pas en Dieu. Oui, oui, annonce-nous ton déluge, annonce-nous ton déluge. Hein, c'est n'importe quoi, nous on va vivre la vie, on a le temps, etc. Et puis le jour où le déluge est arrivé, eh ben, c'était trop tard. Mais le résultat de la patience de Noé dans la souffrance, justement dans l'épreuve, hein, c'est qu'il a permis à 8 personnes de sa famille d'être sauvées. Ça valait le coup peut-être d'être moqué, ça valait le coup de souffrir. 8 personnes ont pu être sauvées parce qu'il a souffert patiemment. Et c'était bon pour lui finalement, au bout. Il n'a pas regardé les hommes. Parce que 100 ans à être moqué comme ça, à un moment, vous dites, bon, je craque. Hein, je vais suivre leur avis, leur manière de faire, etc. Parce qu'ils me saoulent, j'en peux plus, quoi. Mais il n'a pas à regarder les hommes, hein, c'est ce qu'on avait dit au début. Il n'a pas regardé à celui qui persécute, mais il a regardé à Dieu. Il a cru Dieu et il a craint Dieu. Et il n'a pas regardé aux persécuteurs, mais il a regardé tout simplement à Dieu. Vous voyez, comme quoi mon regard, ma façon de regarder ou en qui je me confie dans la persécution, dans la souffrance, ça a un impact dans ma vie et même autour de moi. Parce que là, c'était un impact sur sa famille. Donc des fois, quand on est dans la souffrance, peut-être moqué tout ça, disons-nous que, ok, c'est pas évident, mais acceptons-le, parce que peut-être que derrière, il y a quelque chose, il y a une récompense. La récompense pour Noé, c'était de sauver toute sa famille. Et pour le chrétien, on a vu déjà, c'est une bonne conscience. Être en paix malgré les difficultés. Et là encore un autre texte hein, qui dit « Il a été sauvé au travers de l'eau ». Alors, cette eau, c'était l'eau du déluge. Il dit lui-même, Pierre, que c'était une figure du baptême. Alors, le baptême ne sauve pas. On est sauvé avant de se faire baptiser. Mais là, il prend comme exemple l'eau du déluge, qui est une figure de ce baptême, et non pas un moyen de salut. Et on peut imaginer que ce déluge a effacé l'ancien monde, parce qu'à un moment, Dieu a fait le constat en disant « Mais ce monde est corrompu à un point, et maintenant il va le détruire. » Et c'est ce qu'il va faire au travers du déluge. Et donc il a effacé ce monde ancien. Et le baptême que nous, on vit aujourd'hui, illustre aussi la rupture avec l'ancienne façon de vivre pour entrer dans une nouvelle vie. Quand je me fais baptiser, je dis à ceux qui sont là, hein, à qui je témoigne, qu'il y a quelque temps, j'ai accepté que je suis pécheur, que j'ai accepté que Jésus-Christ m'a sauvé, donc il y avait un ancien temps, et que maintenant ma vie est devenue nouvelle. Hein. Et c'est la même, là, il essaie de faire une relation entre le baptême et ce déluge-là, justement. Et il dit, 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. En construisant l'arche, Noé a cru à Dieu, et c'est sa foi qu'il a sauvé. C'est pas l'eau qu'il a sauvé, c'est sa foi. Il a cru Dieu, il a construit l'arche, l'eau est arrivée, et l'eau, en fait, symbolise le jugement. C'est pas ce qui sauve, c'est le jugement, dans ce cas-là. Et donc, l'eau n'est pas le sauveur, mais Noé a été sauvé du jugement, qui était l'eau, parce qu'il a cru par la foi. Aujourd'hui, on est encore sauvé par la foi. Ce n'est pas le baptême, comme j'ai dit, qui sauve, c'est notre foi. Croire que je suis pécheur, croire qu'il y a un moyen de salut qui est Jésus-Christ. Et de la même manière, en parallèle, Noé a cru en Dieu et a été sauvé par la foi. Il a été sauvé, ben justement, de ce jugement qui était le déluge. Donc l'arche est une espèce de symbole de ce moyen de, de salut. Hein, comme Christ, aujourd'hui, est le seul moyen de salut. Il a cru en Dieu, il est monté dans cette arche. Aujourd'hui, on croit en Dieu, on est monté dans le salut, on pourrait dire quelque part, et on est sauvé à cause de cela. Et en même temps, dit, cette eau était aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Noé préféra faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de garder une bonne conscience. Il aurait pu, comme j'ai dit, se laisser séduire par tous ces gens qui se moquaient de lui, mais il a voulu garder une bonne conscience devant Dieu. Ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé, quelque part. Et on a la tentation, parfois, dans la souffrance, de céder aux persécuteurs. C'est humain, hein. Et même déjà dans notre pays, des fois, quand on est un petit peu moqué, hein, on a des fois envie de dire « j'en ai marre ». La tentation est là. Hein. Mais Noé, lui, a gardé une bonne conscience. Il a préféré faire la volonté de Dieu. Il a accepté de souffrir l'injustice. C'est un choix personnel. Mais il savait que, quelque part, il y a une récompense. Pour lui, la récompense, c'était, et non seulement cette bonne conscience, mais c'est aussi d'être sauvé de ce déluge. Ça valait le coup, non? Je pense, hein. C'est quand même mieux que de mourir noyé. Non? Vous préférez mourir noyé, vous? Ah, mais il a fallu souffrir, 100 ans. À y réfléchir, c'est pas sympa, hein, mais bon. Il a encore vécu longtemps après, hein, sans souffrir, hein, donc ça va. Mais la pensée, comme j'ai dit, la patience, hein, et surtout la patience dans la souffrance, est toujours récompensée. Pour nous, cette récompense, c'est... D'abord, par rapport à Christ, hein, il dit à la fin du texte, la récompense des souffrances de Christ, c'est qu'il est assis à la droite de Dieu dans le ciel. Jésus, comme Noé, aurait pu dire à un moment, et il a eu un petit battement hein, dans le jardin de Gethsémané, il aurait pu refuser cette coupe, mais il l'a acceptée. Il a dit, j'accepte de souffrir terriblement parce qu'il y a une récompense au bout. D'abord pour lui, puisqu'il est à la droite du Père aujourd'hui, il est vivant avec une pleine autorité au-dessus des anges, etc., etc. Mais en même temps, la récompense était pour nous aussi. Parce qu'en mourant sur la croix, il a permis qu'on soit sauvés. Merci Seigneur. Merci d'avoir accepté cette souffrance. Non ? Est-ce qu'on le remercie assez pour ça ? Amen. Souvent, on ne regarde que le salut. Et, ouais, je suis sauvé, ça va, hein, c'est réglé. Mais ça a coûté cher à quelqu'un quand même. Alors, il l'a fait avec joie, enfin avec joie volontairement, mais il faut s'en souvenir aussi parce que en pensant à ces souffrances, ça peut peut-être me ralentir quand hein, je suis un peu fatigué spirituellement, quand j'ai pas envie d'avancer. Mais quelqu'un a souffert pour moi à ce point-là, ça mérite quand même que je me donne une petite baffe hein, et que je me relève en tant que chrétien et que je me mette à marcher, non ? Je vous mettrai la baffe s'il faut. Hein. Non, c'est pas vrai. Et notre récompense à nous, comme pour Christ, quelque part, hein, dans nos souffrances, c'est d'avoir une bonne conscience, mais à salut. Parce que, moi, je me souviens, mon directeur, il venait une fois, il me disait, tu sais, tout le monde dans l'usine se fout de toi parce que t'es chrétien. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais moi, je sais où je vais. Et il m'a regardé. Mais lui, il va souffrir pour l'éternité, peut-être. J'espère que tout ce qu'on a pu partager va le sauver. Mais, enfin, Christ va le sauver, mais moi, j'avais bonne conscience parce que je sais où je vais. Oh, moquez-vous, hein. En même temps, des fois, quand ils se moquent, profitez-en pour commencer à les évangéliser. Parce que je me souviens, dans la salle de pause avec mes bouchers, alors des bouchers, hein, très poétiques, généralement, ben, ils se moquaient tout le temps, et ben, pendant un quart d'heure, je leur parlais de l'évangile. Hein. Et alors, hein, c'est eux qui commençaient à m'en parler. Bon, enfin, bon. Mais c'est vrai que c'est sur le moment, t'es moqué, t'as pas envie, franchement, c'est pas agréable. Mais il faut savoir, des fois, renverser la vapeur et un peu prendre sur soi, et puis finalement, qui sait, peut-être que le témoignage va être à salut pour quelqu'un, je ne sais pas. Mais il faut accepter de souffrir. Mais si nous souffrons, nous savons où nous allons. L'assurance du salut, l'assurance de la résurrection. Tout va bien, non ? Même si on souffre, tout va bien, en fait. Et puis évidemment, cette bonne conscience hein, que je peux avoir dans la souffrance, ne pas ajouter souffrance à souffrance, mais plutôt avoir cette bonne conscience qui finalement est aussi une récompense pour moi, parce que quand ça va mal, je peux aller bien, malgré tout, et je peux traverser l'épreuve portée par le Seigneur. Il n'y a pas plus belle récompense, je crois, pour moi et pour ma vie. Donc comme Noé et Jésus ont patienté dans la souffrance, on a là deux exemples. Hein. Jésus, on pourrait dire des fois, mais c'est Jésus, donc forcément on pouvait y arriver. Mais Noé, c'était un homme comme vous et moi, ou une femme. Mais il a accepté de souffrir comme Christ. Ben, souffrons comme lui en attendant tout simplement la gloire. Pour terminer, on l'a dit, il est préférable de souffrir sans péché pour garder la paix intérieure. Pas toujours facile, mais c'est faisable. Et le Seigneur va nous aider dans ce domaine. Et Jésus, on l'a dit, est le modèle par excellence et il nous appelle à l'imiter. Quand on chante « Te ressembler Jésus », c'est tout l'ensemble de Jésus. Même de souffrir des fois dans la persécution ou des choses terribles dans notre vie. Et à y réfléchir, en même temps, notre souffrance, elle est passagère. Alors oui, je veux dire, c'est long quand même, une centaine d'années, mais la gloire éternelle qui va venir ensuite, qu'est-ce à comparer honnêtement, souffrir un peu pour une gloire éternelle. Pas photo, non? Si? Vous avez un doute, hein? Ça vous aimez pas souffrir comme moi, à mon avis. Mais il faut des fois s'arrêter et se dire, ouais, bon, c'est pas terrible en ce moment, mais ce qui m'attend là-haut, ça, c'est formidable. Et ça, ça devrait tout simplement me rendre encore plus heureux. Si je connais la parole, et surtout dans les moments de souffrance, il y a un tas de versets qui peuvent me revenir à l'esprit. Et je peux nourrir mon cœur avec cela, et ça, ça me donne de la joie. Allez-y, faites-moi du mal. Moi, j'ai la garantie de mon salut, j'ai la garantie que le Seigneur m'aime, etc. Et ça, ça ne peut que m'apporter ma joie, même dans la souffrance. Le Seigneur nous aide. On va prier. Merci. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous dit les choses vraies et telles qu'elles étaient à l'époque. Tous ces chrétiens qui souffraient et toi, au travers de Pierre, tu les exhortes à accepter parfois la souffrance, mais de garder en même temps une bonne conscience. Quelque chose de complètement contraire à nos réflexes humains. Et pourtant, en nous changeant, Seigneur, tu nous apprends aussi à non seulement avoir cette bonne conduite, mais à avoir aussi une bonne conscience, à ne pas pécher, à ne pas céder à la tentation de la vengeance, mais simplement à t'imiter. Seigneur, combien toi tu as souffert, combien tu as été raillé, moqué, et à chaque fois tu as répondu avec douceur, ou tu t'es tu, et tu ne t'es jamais emporté, Seigneur, pour garder une bonne conscience. Apprends-nous, Seigneur, à nous maîtriser dans ces situations. Apprends-nous à t'imiter, Seigneur. Rappelle-nous ce fameux Noé qui, lui, l'a accepté pendant 100 ans. Si tu nous le dis, c'est que c'est possible. Alors aide-nous. Prions aussi, peut-être que nous avons des persécuteurs aujourd'hui, des gens qui se moquent de nous. Et apprends-nous à les aimer, apprends-nous à prier pour eux, en nous souvenant que nous-mêmes, nous nous moquions autrefois peut-être des chrétiens. Seigneur, quel travail à faire dans notre cœur et je crois que tu vas le faire pour chacun d'entre nous et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.